C'est avec un très vif plaisir que nous recevons ce soir dans les salons Albert Mola, Étienne Bimbenet, qui est professeur de philosophie contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, qui est un spécialiste d'abord de Merleau-Ponty, qui a publié en 2011 « L'animal que je ne suis plus » et qui l'année dernière a publié « L'invention du réalisme ». Ce livre est passionnant par les liens qu'il établit entre, d'une part, un certain nombre de recherches très concrètes concernant l'éthologie, concernant la psycholinguistique, concernant aussi la psychologie de l'enfant, et d'autre part, des réflexions concernant le statut même des objets auxquels il s'intéresse, d'un point de vue que l'on ne peut pas qualifier vraiment d'épistémologique, mais au fond, qui pose des questions de type philosophique, voire métaphysique. Alors ce livre-ci prend la suite immédiate du précédent, qui déjà a été passionnant, « L'animal que je ne suis plus », mettant en évidence, en quelque sorte, l'émergence de l'homme, de l'animalité. Ici, Étienne s'intéresse à ce qu'il appelle l'invention du réalisme, et bien sûr, il va nous expliquer ce qu'il entend par cette expression, c'est-à-dire comment l'homme, à la différence des autres animaux, a conquis, par rapport à ce qu'on pourrait appeler une position égocentrique, qui est celle présente chez les animaux, et d'ailleurs, selon ce qu'il appelle un idéalisme subjectif de l'animal, comment donc l'humanité s'émancipe de cet égocentrisme, à la fois en tant qu'espèce, devenant une espèce spécifiquement culturelle, mais aussi à l'échelle des individus, et notamment au moment de la petite enfance, au moment des développements du petit enfant. Tout cela est absolument passionnant. Alors, nous allons écouter environ trois quarts d'heure Étienne, et puis ensuite je lui poserai quelques questions, et ensuite je vous donnerai la parole. Voilà.
Merci beaucoup, Francis. Alors, je vais présenter cet ouvrage et je me demandais comment faire pour le présenter de la manière la plus engageante possible, la plus stimulante. Et en fait, je pense que, prenant un peu de recul par rapport à lui, je pourrais dire que j'ai tenté, dans cet ouvrage, qui est paru donc en 2015, trois paris philosophiques que je vais vous présenter. Alors, le premier pari consiste à faire rentrer notre origine animale en philosophie. Nous savons depuis quelques 150 ans, depuis disons Darwin, que nous provenons de l'animal, que nous sommes un certain type d'animaux. On peut-être considérer que ce savoir n'est pas juste un savoir local, un savoir qui appartient à la biologie de l'évolution, mais que ce savoir, le savoir de ce fait-là, nous provenons de l'animal, peut affecter profondément la philosophie en ses catégories fondamentales. Peut affecter la philosophie dans la forme même de son discours, que ce fait-là, le souvenir d'une certaine manière de ce fait, peut provoquer de nouveaux étonnements philosophiques. La philosophie connaît ce type de faits, hein, qui ne sont pas simplement des faits qui se livrent à son investigation, mais qui ont le pouvoir d'instituer de nouvelles pensées, la mort de Socrate par exemple pour Platon, la Révolution française, par exemple, pour Kant, hein, qui dévie sa fameuse promenade, hein, le jour où il apprend le fait de la Révolution française. Je pense à un autre philosophe sur lequel, en effet, Francis l'a dit, j'ai fait ma thèse, Merleau-Ponty, qui publie en 1945 un texte fameux qui dit « La guerre a eu lieu ». La guerre a eu lieu, c'est-à-dire, voilà, ce fait a eu lieu, on ne peut plus penser dorénavant comme avant, hein, on ne peut plus se penser de manière kantienne dans un ciel d'idées intelligibles, il faut penser autrement. Alors il y a peut-être un fait plus fondateur, plus fondamental en philosophie, un fait qui agite la philosophie de manière peut-être plus viscérale, une source d'étonnement, je dirais, inépuisable. et qui est la mort. Ça consiste à dire que la mort ne serait pas un des objets du discours philosophique, mais peut-être pour elle, un fait ou un scandale si fondamental que la philosophie a pu, à certains moments de son histoire, l'ériger en catégorie fondatrice ou refondatrice de son discours. Et on pourrait montrer qu'il y a, enfin, de manière très classique au fond, un arc philosophique, hein, part de Platon jusqu'à peut-être Heidegger, Heidegger en particulier. Hein. Platon s'attire cette idée que le voir de l'idée en face nécessite une succession d'ascèses, dévitalisantes en quelque sorte, qui produiront hein, ce voir dévitalisé, ce voir de l'idée en face. Mais je pense plus particulièrement à Heidegger, c'est-à-dire à cette idée que la mort suscite en nous, stimule en nous, une disposition affective fondamentale qui s'appelle l'angoisse, et que dans l'angoisse, j'éprouve que le monde est et pourrait ne pas être, que je suis et que je pourrais ne pas être, bref, que toute chose est sur fond de rien. Et l'angoisse, comme disposition philosophique fondamentale, m'engage à poser cette question, pourquoi de l'étant plutôt que rien ? L'angoisse me rend philosophe. L'angoisse face à la mort m'incite à poser cette question absolue, hein, pourquoi de l'étant plutôt que rien ? Alors voilà un fait, hein, en philosophie, la mort, hein, qui produit en quelque sorte du philosophé, qui produit une pensée proprement philosophique. Alors le pari, en l'occurrence, hein, le pari que j'ai tenté dans cet ouvrage, c'est que l'origine animale, c'est-à-dire ce fait qui n'est pas devant nous, comme la mort, mais qui est derrière nous et dans un passé très 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 ancien, qui n'est pas un fait individuel, comme peut l'être ma mort, et la mort peut viscéralement me bouleverser, hein. L'origine animale, c'est bien différent parce que c'est un passé d'espèce. Eh bien, là, nonobstant, hein, pourtant, l'origine animale de l'humain pourrait se révéler aussi vertigineuse que le scandale inguérissable de la mort. Alors, vous me direz, qu'y a-t-il de proprement étonnant, hein, qu'est-ce qu'il y a de proprement étonnant dans cette origine ? Et c'est vrai que un tel étonnement n'éclate pas d'emblée. Et en particulier parce que je crois qu'il y a deux façons de rater l'étonnement, de se détourner, de se divertir, comme disait Pascal, hein, d'un tel étonnement. Alors il y a l'ancienne manière et la nouvelle. L'ancienne, ce serait la manière métaphysique de penser le rapport de l'homme à l'animal, consisterait à manier des entités absolues et séparées. Et d'une certaine manière, je dirais que nous le faisons tous les jours lorsque nous disons... Bah, l'homme, c'est quoi ? C'est un animal qui a la raison, qui a le langage, qui a la pensée, qui a la technique, qui a le droit. Et à chaque fois, nous produisons comme ça, nous lançons des grandes entités majuscules, des grandes entités absolues, mais dont nous ne savons pas grand-chose, hein, des entités qui sont mal explorées, mal explicitées. Et d'une certaine manière, nous ne disons pas grand-chose en parlant de la pensée, grand P, la technique, grand T, le langage, grand L. Bon. Au fond, ce qu'on produit par là, et d'une manière qui nous vide, qui vide la philosophie de tout étonnement, ce qu'on produit par là, lorsqu'on manie ces grandes entités absolues, ce qu'on produit par là, c'est ce que Cassirer, le philosophe allemand, Ernst Cassirer, appelle une analyse substantielle. La technique, une grande substance comme ça qui vient surplomber le corps animal, la raison, une grande substance, la pensée, des grandes substances comme ça qui, tout d'un coup, nous extraient à la vie animale, miraculeusement, et font de nous un être humain. Mais, vous voyez, une espèce de coup de baguette magique métaphysique, hein, qui au fond ne fait pas voir grand-chose, parce que l'analyse que Cassirer oppose à l'analyse substantielle, c'est ce qu'il appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire décrire des comportements. Et ce que nous faisons précisément lorsque nous faisons de la mauvaise métaphysique, hein, lorsque nous manions ces entités séparées, ces entités absolues, la pensée, le langage, c'est que précisément nous ne faisons pas une analyse, ne produisons pas une analyse fonctionnelle. Nous ne décrivons pas finement, précisément, concrètement des comportements. Et donc, nous ne voyons pas grand-chose. Hein, nous ne voyons pas grand-chose lorsque nous faisons de l'homme un animal qui a la pensée ou le langage. Ça, c'est l'ancienne manière, si je puis dire, mais qui, au fond, est un peu la nôtre chaque fois que nous disons tout cela. Hein, notre langage est encore plein de ces entités qui voltigent, en quelque sorte, sans être vraiment arrimées à une expérience précise. L'autre manière, et qui est un peu la manière moderne, si je puis dire, la manière contemporaine, consiste à dire qu'au fond, l'homme est un animal comme les autres. Certes un peu plus perfectionné peut-être, hein, nous envoyons des fusées dans l'espace, nous avons des micros, des ordinateurs, mais c'est un animal comme les autres. Nous avons de nombreuses raisons de le faire, notamment des raisons morales, hein, nous infligeons aux animaux, notamment dans les batteries animales, dans l'élevage industriel de l'animal, des souffrances inouïes, Et c'est comme s'il fallait battre sa coulpe, c'est comme s'il fallait rendre justice et dire, au fond, hein, on est guère plus que lui. Hein, il y a donc une espèce de repentir philosophique qui consiste à dire, bah, au fond, il n'y a pas grande différence. Donc il y a un moralisme qui se cache dans cette façon de réduire, en quelque sorte, de rabattre l'humain sur l'animal. Il y a des énoncés qui reviennent souvent, en particulier deux énoncés darwiniens qui reviennent très souvent lorsqu'on envisage de cette manière le rapport de l'homme à l'animal. Il y a d'abord cette idée qu'on trouve dans « La descendance de l'homme » ou « La filiation de l'homme » de l'ouvrage de 1871 de Darwin. C'est un énoncé qui revient très souvent, hein, qui est un peu ce qu'on trouve au départ des articles sur l'homme et l'animal. Cette idée qu'au fond, dans la mesure où l'homme provient de l'animal par un processus graduel, un processus continu, parce que c'est un processus empirique et naturel, eh bien la différence des capacités cognitives entre l'homme et l'animal ne peut être qu'une différence de degré, et non de nature, dit Darwin, une différence graduelle. Donc on est dans le continu. Donc il n'y a pas de différence radicale, et chacun de dire oh, aucune différence radicale, on est sauvé, il n'y aura pas de métaphysique derrière, et on se rassure hein, en disant qu'au fond, nous sommes très proches de l'animal. Autre manière de dire, qu'on trouve là encore souvent, enfin qu'on trouve chez Darwin, mais qu'on trouve très souvent dans les articles sur la question, la différence d'homme à animal ne peut pas être autre chose que, peut pas être plus grande que la différence d'animal à animal, donc c'est une différence spécifique. Il n'y a aucune raison de faire plus de différence entre l'homme et le loup, par exemple, qu'entre le loup et le chien. L'homme, de ce point de vue-là, hein, du point de vue de cet énoncé sur l'espèce, sur la différence spécifique, hein, nous ne sommes séparés des autres animaux que par des différences spécifiques, de ce point de vue-là encore, l'homme s'apparente à l'animalité. Je pense que ces deux énoncés, la différence homme-animal est une différence graduelle, la différence homme-animal est une différence spécifique, ces deux énoncés sont contestables. Je pense qu'ils sont contestables, non pas parce qu'ils sont faux du point de vue de la science, mais parce qu'ils sont incomplets, ils ne disent que ce que la biologie veut nous dire sur le rapport de l'homme et l'animal. Ils biologisent la question et ils oublient tout ce que les sciences humaines, les sciences sociales, la psychologie, la sociologie, la linguistique, la psycholinguistique, la psychanalyse peuvent nous dire du vivant humain et des caractéristiques spécifiques et originales de ce vivant. Et puis par ailleurs, lorsqu'on rabat ainsi l'homme sur l'animal, eh bien, au fond, on réduit toute forme d'étonnement. Il n'y a plus vraiment de surprise puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Il se passe une forme de perfectionnement graduel, mais rien de plus que ce qui peut séparer deux espèces l'une de l'autre. Et donc, rien ne se passe vraiment. Alors, cet endroit, vous me direz, mais on pourrait quand même se contenter, même s'il n'y a pas d'étonnement à venir du côté de ce réductionnisme contemporain, qui est l'opposé de la métaphysique à l'ancienne, hein, qui séparait l'homme de l'animal. Là, au contraire, on rabat l'homme sur l'animal. Vous me diriez, pourquoi quand même ne pas se contenter de cette position, puisque c'est ce que la science nous apprend, au fond, c'est ce que la science a l'air de nous apprendre. Eh bien, je pense que, et au fond, c'est la position souvent dominante hein, dans les débats, je pense qu'il y a deux raisons de ne pas se satisfaire de ce réductionnisme contemporain. D'abord parce qu'on ne rend pas justice à une certaine originalité des formes de vie humaine, en ne les comprenant que depuis la biologie, que depuis ce que la biologie d'évolution ou certaines branches de la biologie comme la génétique, par exemple, peuvent nous en dire. Donc là, il y a une vraie forme de réduction, donc ça n'est pas satisfaisant, si je puis dire. Et puis, il y a une protestation peut-être plus viscérale, plus intime, qui nous affecte, lorsque nous nous entendons dire qu'au fond, nous sommes des animaux comme les autres. Au fond, c'est comme si ça n'était pas conforme à ce que nous vivons. Et là, j'en appelle à du subjectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis, hein, lorsque je vous parle avec une espèce de dispositif scénique, là, avec un micro, etc. Nous avons convenu de ce rendez-vous philosophique, certains se sont déplacés, enfin, tout le monde s'est déplacé, etc. Bon, il y a tout un ensemble d'institutions, de dispositifs techniques, mais aussi sociaux, qui sont là et qui, au fond, sont très originaux. Hein, je vais essayer de le montrer tout à l'heure, mais quelque chose ici qui est très original. Et avant même, au fond, d'être éclairci, d'être objectivé, on peut dire, ben, on le sent, on sent qu'on est en train de faire quelque chose ici de très particulier, hein, qui n'est pas de près ou de loin ce qu'on voit et ce qu'on connaît de l'animal. Il y a une façon classique en philosophie dont le subjectif se déclare et se manifeste, notamment dans le discours philosophique, qui est ce qu'on appelle une autocontradiction performative. C'est le crétois qui dit « tous les crétois sont menteurs ». Mais disant « tous les crétois sont menteurs », le crétois, dans la forme même de son discours, parce qu'il, dans la mesure où il le dit, il prétend que c'est vrai, et donc la forme même de son discours contredit ou autocontredit son contenu. Il dit « tous les crétois sont menteurs », bah, sous-entendu, sauf moi, parce que moi, je dis quelque chose de vrai. rien n'est vrai, ou tout, enfin, il n'y a pas de vérité, bah, le simple fait de le dire contredit par une forme d'auto-contradiction performative, l'acte même de le dire contredit le contenu du discours. Et bien, de la même manière, on pourrait dire, chaque fois que nous disons l'homme est un animal comme les autres, au fond, nous nous auto-contradisons. Contredisons. Au fond, nous produisons quelque chose qui va contre l'acte subjectif de le dire. Il y a quelque chose qui est immédiatement contradictoire, parce que si je suis attentif à ce que je fais lorsque je le dis, eh bien, je suis en train de faire quelque chose de spécifiquement humain, c'est-à-dire que j'énonce, j'asserte, j'en appelle aux autres pour qu'ils me disent c'est vrai, c'est faux, etc. J'institue une discussion rationnelle sur ce qui est vrai ou pas vrai, j'institue une téléologie de la vérité. Bref, je fais du commun, hein, comme aucun animal ne le fait. Hein, quelque chose de très très étonnant dans cette prétention à la vérité, hein, qui nous anime lorsque nous discutons. Et le simple fait de dire le métamodèle comme les autres, d'une certaine manière, est contradictoire. Hein. Mais il faut s'engager dans cet acte de parole, il faut s'engager subjectivement dans cet acte de parole pour sentir cette chose-là. De loin, si on voit quelqu'un qui dit ça, on dit bon, oui. Et si on regarde d'une certaine manière, si on regarde de loin les humains, en troisième personne, au fond, il n'y a pas grande différence. On peut en effet se contenter d'une différence de degré. Mais m'engageant dans cet acte de parole, j'aperçois que quelque chose cloche, comme on dit. Alors cette remarque sur le ce que je vis lorsque je dis, ou que je fais, ou que je vis ce que je vis, cette remarque sur le subjectif, disons, me semble très importante, parce que, d'une certaine manière, c'est le point commun à ces deux étonnements ratés, l'étonnement raté par la métaphysique, l'étonnement raté par la réduction. Ces deux types d'analyses, métaphysique et réductionniste, au fond, ont en commun d'aborder l'humain et l'animal en troisième personne. La métaphysique, lorsqu'elle aperçoit des grandes entités absolues et séparées, au fond, elle produit ce que j'ai appelé une analyse substantielle avec Cassirer, c'est-à-dire, je regarde comme ça la pensée de loin comme une substance. Et au fond, je ne m'engage pas dans ce que fait un animal lorsqu'il chasse, lorsqu'il fuit. Je ne m'engage pas subjectivement dans son vivre. De même, la pensée, la raison, voilà, c'est des entités qui ne sont pas fonctionnellement, comme dit Cassirer, décrites, hein, dans leur signification, vécues. Donc il y a là une forme d'analyse en troisième personne qui ne rentre pas dans son objet. Et de la même manière, on pourrait dire, et par définition de ce point de vue-là, de la même manière, l'analyse positive que produit la science biologique est une analyse qui, par définition, si je puis dire, est en troisième personne. C'est-à-dire qu'elle part de faits publics, et puis elle tente de purger ces faits de tout coefficient de subjectivité. Donc là, par définition, la science empirique et la science biologique nous situent du côté d'une analyse en troisième personne. Alors peut-être que si rien n'arrive, si on ne s'étonne de rien en métaphysique, lorsqu'on dit l'homme, il a la pensée, la raison, le langage, et si on ne s'étonne de rien quand on dit l'homme est un animal comme les autres, c'est parce qu'au fond, peut-être dans les deux cas, on se contente de regarder les choses à distance sans s'engager subjectivement dans l'analyse. Peut-être que le propre d'une analyse en troisième personne, c'est justement voilà, c'est de ne produire aucun étonnement. Du coup, j'en arrive à mon deuxième pari, qui est le pari du subjectif ou du phénoménologique. Non seulement, donc, tentons d'introduire l'origine animale en philosophie, mais faisons-le d'une manière nouvelle, rarement tentée jusqu'à présent, sinon en passant, faisons-le en première personne. Essayons de phénoménologiser la question. Et produisons ce que Husserl appelle une analyse intentionnelle de la question. Peut-être qu'à ce moment-là, on échappera à cette double déflation de l'étonnement, hein, qu'on trouve dans la métaphysique à l'ancienne, hein, le confort, hein, d'un être humain de droit divin, en quelque sorte, et puis le confort d'un réductionnisme. Dans les deux cas, on pourrait dire que rien ne se passe. Hein, je suis de toute éternité possesseur de la pensée, propriétaire de la raison, etc. Ou alors je suis tout simplement un animal comme les autres. Et rien ne se passe. Essayons une analyse en première personne, essayons de produire une analyse intentionnelle de la chose, et voyons si nous n'assistons pas à un événement, à quelque chose d'étonnant. Alors, il est difficile de restituer le vécu animal, mais peut-on produire une caractéristique du vécu animal ou de l'intentionnalité animale, de la manière dont l'animal est au monde, se rapporte au monde? Dans mon ouvrage, je me réfère à une vraie caractéristique, en tout cas elle est donnée comme telle par un biologiste allemand qui s'appelle Uxküll, biologiste de la première moitié du XXe siècle, qui propose de penser l'animalité depuis la notion de milieu, Umwelt. L'Umwelt, le milieu de vie, le milieu environnant, ce n'est pas une notion périphérique par rapport à l'animal, hein, comme s'il y avait l'animal, et puis bon, accessoirement, il se rapporte à son milieu. En réalité, l'Umwelt définit l'animal comme tel pour Uxküll. C'est-à-dire être un animal, c'est se rapporter à un milieu, c'est viser intentionnellement un milieu de vie, une Umwelt. Et un milieu, c'est dans l'ensemble infini des stimulations objectives possibles qui composent l'entourage de l'animal, tout ce qu'il y a autour de l'animal, hein. La tique vit dans la nature, au milieu de toutes sortes de choses. Hein. Bien, le milieu, c'est ce que perçoit sélectivement l'animal. Le milieu, c'est toujours le milieu de tel animal. C'est ce qui compte pour lui. Hein, l'Umwelt, hein, Umwelt, monde autour, littéralement. Hein. C'est le monde approprié à l'animal, le monde entourant l'animal, approprié à l'animal, parce que c'est ce qu'il a, d'une certaine manière, sécrété à partir de ses propres besoins. C'est ce qu'il a produit à partir de lui-même. Une espèce de bulle du milieu animal, de gang, qui fait qu'il ne perçoit que ce qui intéresse ses besoins possibles, que ce qui peut l'affecter en bien ou en mal, et rien d'autre. Et donc on peut dire, de ce point de vue-là, dans la biologie de Uxküll, mais que je trouve très convaincante, que le donné pour l'animal est un construit, quelque chose qu'il construit, qu'il projette depuis les catégories pratiques qui structurent sa vie. On pourrait dire, déplaçant une phrase de Kant célèbre, que l'animal ne perçoit au dehors, ou même ne perçoit a priori au dehors, que ce qu'il y a mis lui-même. Il donne sens, il produit des significations pratiques, affectives, qui sont les siennes. Rien ne lui est passivement donné, qu'il n'ait anticipé depuis ses besoins et ses affects. Et donc on dira avec Uxküll que l'animal est au sens fort du terme un sujet. Uxküll le dit très clairement. Je vous donne une citation de Uxküll qui dit « Le biologiste se rend compte que cet être vivant est un sujet qui vit dans un monde propre dont il forme le centre. » L'animal est un sujet qui vit dans un monde propre dont il forme le centre. Trois façons de dire rigoureusement la même chose. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler un subjectivisme radical, un subjectivisme ou un relativisme, autre façon de dire la même chose, ou un égocentrisme, pour reprendre une notion qui appartient à la psychologie de l'enfant, trois façons de dire la même chose. Donc, d'une certaine manière, voilà la caractéristique intentionnelle, la caractéristique en première personne, si je peux dire. Si j'étais un animal, voilà, je percevrais les choses sur un mode pratique, je percevrais ce qui m'intéresse et pas le reste. Voilà ce qu'on peut dire concernant l'animal. Nous provenons d'une vie centrée sur soi, qui s'entoure de son milieu, de tout ce qui compte pour elle. Or, au terme du parcours hominisant, au terme de l'anthropogénèse, comme on dit, de l'hominisation, on trouve tout à fait autre chose. On trouve une vie qui s'organise d'une toute autre manière, non plus centrée sur soi, mais sur le monde, ce que nous percevons comme l'unique monde naturel. À l'opposé de l'égocentrisme du vivre, la vie humaine impose une forme de réalisme tout aussi catégorique et qui pourrait représenter sa caractéristique. Pour nous, le monde existe au sens fort du terme. C'est ce que Husserl, le fondateur de la phénoménologie, appelle l'attitude naturelle. Nous croyons spontanément que le monde existe. Notre perception n'est pas humblement relativiste. Elle est très dogmatique, au contraire. Elle présume le monde, l'unique monde naturel, le réel. Si l'on entend par là, le monde en soi, non pas un monde ce serait un milieu de vie, mais le monde. Nous présumons, nous prétendons, très bizarrement, au monde comme tel, au monde en soi. Nous sommes animés de cette prétention qui gonfle en quelque sorte dans la moindre perception. Et donc on pourrait dire que le monde, au même titre que l'animal, que le milieu pour l'animal, le monde représente la caractéristique humaine fondamentale. Pour nous qui percevons, et ça appartient d'une certaine manière à la grammaire de la perception, percevoir, c'est viser un monde qui est là sans nous, Percevoir, c'est viser une chose qui, je pourrais ne plus être là, elle serait encore là. Ça appartient à la perception. La perception n'est pas hallucination, hein, en tant qu'elle est perception, elle déclare un monde sans moi. Une fois que je serai mort, une fois que l'espèce humaine aura disparu de la surface de cette planète, eh bien, le monde sera encore là, dans sa solitude glacée, avec ses planètes qui continueront à tourner. Mais je le sais, hein, en tant qu'être percevant. Je le sens, et sinon je ne perçois pas, sinon je sais pas, j'hallucine peut-être ce monde, je considère que c'est moi qui produis ce monde, et qu'en mourant, ce monde repartira avec moi. Je peux avoir fait beaucoup de philosophie et croire ça. Mais si je ferme tous les livres, comme on dit, la perception m'apprend cet en soi, en quelque sorte, du monde. On pourrait même ajouter, la perception ne m'entretient pas seulement de ma mort. Une fois que je serai mort, le monde restera ce qu'il est. Voilà ce que je prétends dans la moindre perception. Mais également de ma naissance, un enfant qui naît, si je puis dire, et qui grandit, est animé d'une curiosité incroyable, d'une curiosité insatiable, très intense, comme s'il avait un retard à rattraper. Le monde est là, il sent bien que c'est le monde commun, le monde de tous les autres, et il voudrait en être en quelque sorte. Il sent bien que ce monde était là avant lui. Hein. Il y a une espèce d'une façon de vouloir rattraper le retard des adultes, en quelque sorte. Toutes les choses sont anciennes et, comme dit Hannah Arendt, il est nouveau dans ce monde. Donc la perception en tant qu'humaine vise fondamentalement un monde qui la déborde en arrière, avant la naissance, en avant, après la mort, ou qui, comme on dit en phénoménologie, la transcende. En un sens non théologique, hein, mais la transcende au sens d'une transcendance phénoménale. Donc vous voyez que le réalisme perceptif nous situe à l'opposé de la corrélation animale, la corrélation qui unit l'animal à son milieu. Le monde, l'unique monde naturel, le réel, est ce qui m'apparaît, mais comme se passant de tout apparaître, pour être ce qu'il est. Le monde, en tant que monde naturel, en tant que monde comme tel, en tant que réel, n'est pour l'homme rien d'autre que ce qui peut exister sans l'homme. Donc on voit mieux ce que produit ce deuxième pari, ce qu'on peut gagner éventuellement dans une analyse intentionnelle ou en première personne de notre origine animale. Deux choses, à mon avis. D'abord, on remet en discussion, en quelque sorte, de manière renouvelée par Darwin, si je puis dire, renouvelée par la biologie de l'évolution, une vieille querelle qui est la querelle de l'idéalisme et du réalisme. L'idéalisme subjectiviste de l'animal, hein, l'animal qui ne voit au dehors que ce qu'il a mis lui-même, l'idéalisme phénoméniste, l'idéalisme subjectiviste ou phénoméniste de l'animal, eh bien, il est notre premier rapport à ce qui est, hein, pour nous vivants, et comment passe-t-on de cet idéalisme-là, de ce subjectivisme-là, de ce relativisme-là, à une prétention réaliste, à un réalisme. Vous voyez, ça consiste ici à réinvestir cette vieille querelle de l'idéalisme et du réalisme, mais la réinvestir sur des bases empiriques, ce que nous apprend l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous mettions le monde au centre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous prétendions que le monde est au centre, que c'est notre tribunal, comme on dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous accomplissions cette révolution copernicienne, hein, qui met le monde au centre, et que nous montrions du doigt les choses en disant, regarde, c'est ça, hein, que ce monde juge nos actes, nos pensées, nos jugements, etc. Oui, ça consiste à réinvestir cette vieille question, mais en passant par des enquêtes empiriques sur c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est l'invention du langage, est-ce que c'est la chasse, la technique, etc. Est-ce que c'est la société, l'ultra-socialité des primates, qu'est-ce qui a fait que nous avons accompli cette bascule, hein, de l'idéalisme au réalisme. Et puis l'autre conséquence, si je puis dire, c'est que ça revient à réordonner ce problème selon un fil chronologique. Cette discussion de l'idéalisme et du réalisme, on ne peut pas la penser de manière abstraite, on est obligé, en quelque sorte, de commencer par l'idéalisme. C'est notre statut de vivant, ici, hein, qui décide. Nous sommes vivants avant d'être pensants, nous sommes vivants avant d'être humains. Et donc, nous avons à considérer que le réalisme n'a pas toujours été. Le réalisme est quelque chose comme une postulation assez folle, d'une certaine manière. Percevoir en croyant que nous percevons le monde en soi, c'est quelque chose d'assez fou, c'est une postulation assez étonnante, mais qu'il s'agit précisément de faire surgir de l'idéalisme vital, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été possible. Mais on ne peut pas commencer par le réalisme. On ne peut pas commencer par dire, il y a le monde, il suffit d'ouvrir les yeux, il y a le monde, bah, regardez, il y a le monde. Non. Un vivant qui agit, un vivant animal qui agit, qui s'affecte, il ne voit pas le monde comme tel. Il y agit, il fait toutes sortes de choses, mais il ne regarde pas le monde pour le monde. Donc on ne peut pas commencer, on ne peut pas présupposer le réalisme. Ce n'est pas possible. Alors voilà l'épure, si vous voulez, la schématisation que je vous propose. Comment passe-t-on d'un idéalisme vital, d'un subjectivisme, d'un relativisme à un réalisme, à une croyance réaliste, à une attitude naturelle, comme dit Husserl. Pour juste avant de passer au troisième pari, mais juste pour la spécifier un peu, je propose, et c'est ce que j'examine dans l'introduction de l'ouvrage, de répondre à trois petites objections. Pas petites, des objections très massives, mais j'essaie de dire ça pour vous rassurer, vous dire que je ne vais pas parler pendant 5 heures. Alors d'abord, une première objection, ou une première série d'objections qui viendrait de celui que j'appellerais l'égalitariste, ou l'animaliste. Celui qui s'offusquerait d'avoir dénié à l'animal le réalisme. Comment le réalisme ? J'ai ça dans toutes mes conférences sur quelqu'un qui n'est pas content, parce que comment j'ai osé dire que les animaux n'étaient pas réalistes. Comme si tout ce qu'on donne à l'homme, il faut le donner. Oui, mais mon chat, à chaque fois, il faut... Oui, d'accord, il a aussi ça. Oui, non, ils ont un sens de la justice, oui, ils ont un sens de la morale, oui, ils ont tout, en fait. Alors, il faut à chaque fois prendre le temps de répondre à l'animaliste offusqué, et dire qu'il n'est pas question de nier que l'animal soit ouvert sur un environnement qui est là autour de lui, qui est bien présent. Simplement, cet environnement, il en exploite certaines ressources qui lui sont bonnes, il se désintéresse des autres, et cet environnement, il s'y rapporte sur un mode pratique ou affectif qui n'est pas forcément une intentionnalité réaliste. Il ne va pas, d'une certaine manière, jusqu'à la transcendance du réel. Et on peut bien reconnaître que l'animal est ouvert sur un mode pratique ou affectif sur son environnement, mais sans qu'il prétende à l'en-soi du monde. Pourquoi, de manière totalement anthropomorphe, vouloir absolument qu'il prétende à l'en-soi du monde ? Pourquoi vouloir faire un animal savant ou un animal métaphysicien qui prétendrait à la chose en soi ? Bon. Il vit dans ce monde, il s'en affecte, il le fuit, il le cherche, il s'en émeut, il vit toutes sortes de choses, mais nous n'avons aucune raison d'anthropomorphiser l'animal et d'aller si loin dans notre rapport à lui. Alors l'animaliste n'est pas content, il bougonne, il dit oui mais, alors c'est la première protestation est une protestation disons un peu politique ou morale, il dit, oui mais quand même l'animal, donc là il affine sa protestation et puis il dit mais au fond qu'est-ce que vous en savez ? Ça c'est lui aussi plein de fois, vous n'êtes pas un animal, vous en savez. Donc, on n'a aucune raison d'enfermer l'animal dans son accaparement, comme dit Heidegger, dans son intentionnalité pratique, une intentionnalité pratique et non pas réaliste, une intentionnalité d'umwelt, comme on dit, une intentionnalité qui va jusqu'au milieu de vie, mais pas au-delà. Pourquoi l'enfermer dans son milieu de vie, dans son umwelt, et pas lui donner le monde, après tout c'est... Donc là, l'objection s'affine et se fait objection, disons, épistémologique ou éthologique. Il dit, oui, mais quel type de comportement vous avez vous permettre de dire ça. Et à mon avis, je pense moi très simplement qu'il faut retourner l'objection. C'est-à-dire qu'au fond, nous connaissons l'intentionnalité pratique. Nous la connaissons, comme dirait Bourdieu, par corps. Quand je fonce, je suis en retard, je suis dans la rue et que je cours après le tramway, etc., je suis sur le mode d'une intentionnalité pratique, d'un sens pratique, comme dirait Bourdieu, et ce rapport à l'umwelt, au milieu de vie, je le connais par corps. Nous sommes des vivants. Et donc, nous savons ce que c'est que c'est qu'une intentionnalité pratique ou vitale. C'est ce qui vient de manière immédiate, c'est ce avec quoi nous renouons tout le temps, en permanence, dans notre rapport au monde. Et donc, d'une certaine manière, ce rapport intentionnel, on peut le projeter sur l'animal, pas de manière assez naturelle, c'est ce que fait Huxkull, mais je pense que c'est au fond notre cordon ombilical qui nous relie à l'animal, c'est cette intentionnalité vitale ou pratique que nous connaissons par corps ou par cœur. Et nous pouvons, je pense, assez clairement en créditer l'animal et voir comment il vit cette intentionnalité pratique, comment il l'affine, comment il la perfectionne, quels sont les précurseurs de notre humanité chez lui. Mais je pense que c'est en quelque sorte la base continue, la base fondamentale de notre rapport à l'animal. Mais si l'animaliste veut montrer qu'il y a bien davantage que cela chez l'animal, qu'il le prouve. Quand je dis qu'il faut retourner l'objection, la charge de la preuve lui incombe. S'il a des arguments sérieux à faire valoir, des arguments éthologiques S'il connaît des animaux passionnés par le monde comme tel, qui enquêtent sur la composition minéralogique de la pierre, des oiseaux le soir qui bavarderaient sur leur fil sur la journée, des chimpanzés de laboratoire, des chimpanzés qui sont des chimpanzés de laboratoire, comme la station de Franz de Waal, par exemple, à qui on a, ou d'autres, par exemple les chimpanzés à qui on a appris le langage des sourds-muets ou le langage par lexigramme. Sont-ils, bah oui, si on veut montrer que ces chimpanzés parlants ont appris des mots et qu'avec ces mots, on le sait qu'ils ont appris toutes sortes de mots, hein, mais sont-ils sortis d'un usage pragmatique de ces vocables? Est-ce qu'ils décrivent ce qui les entoure? Est-ce qu'ils le décrivent pour rien, pour le plaisir, pour le partager avec les autres, sous la forme d'une connaissance déclarative de ce qui est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'interrogation gratuite, le commentaire perpétuel sur la chose pour la connaître en sa vérité, la discussion en quête de la réalité de la chose, le refus de s'en tenir à la simple apparence, est-ce que ce sont des comportements typiques de l'animal? Je ne pense pas. Je ne vois rien qui s'y rapporte. Tout simplement parce que je ne vois aucune institution, comme les nôtres, hein, qui s'y rapporte. Je vois des précurseurs, je vois des flèches en direction de ce type de comportement, mais aucune institution, tout simplement, consiste à dire, ben, on va mettre des affiches, à la conférence de M. Mabenet, tout le monde vient, puis on parle, et on commente, voilà. On s'interroge sur l'origine du réalisme. Voilà, c'est aussi simple que ça, en quelque sorte. C'est un peu la lettre volée d'Edgar Poe. On dit, ah, c'est quoi la différence? Ben, oui, elle est là, la différence. On a des institutions, toutes simples, hein, qui consistent à partager le savoir autour de la chose, par exemple, là. Institutions comme les colloques en sciences, les publications scientifiques, voilà, les institutions qui mettent le réel au centre. Ce que je veux dire par là, c'est ne nous trompons pas d'émotion. Il ne s'agit pas ici de rendre justice à l'animal, hein, pour tout le mal, et absolument scandaleux, hein, que nous faisons à l'animal. La question ici n'est pas une question morale, c'est une question anthropologique, hein, concerne la bascule en quelque sorte du vivant, de l'animal à l'humain. Et ce qu'on risquerait à moraliser la question, c'est tout simplement l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dira ben, le propre de l'homme, c'est ça, quelqu'un dit, oui, mais non, mais moi je connais un singe qui fait la même chose, ou ah ben oui, mais je connais un éléphant qui fait de la peinture. Bon. Donc, ne nous trompons pas d'émotion, la question est anthropologique, elle n'est pas morale. Et le risque ici, en l'occurrence, c'est l'anthropomorphisme. Seconde objection, complémentaire et inverse de la première, s'adresse cette fois à l'être humain. Et elle émane cette fois-ci non pas de l'animaliste ou de l'égalitariste, mais de celui que j'appellerais le relativiste. Comment dire de l'homme que seul entre tous les vivants, il accède à la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas là une affirmation un peu naïve, après tout ce que nous ont appris en particulier les sciences humaines, le grand essor des sciences humaines au 19e, au 20e siècle, qui nous ont appris que nous vivions tous dans un milieu de vie, historiquement, sociologiquement, linguistiquement, hypothèse de Sapir-Whorf, psychologiquement particulier? Nous sommes les enfants d'un milieu de vie particulier. De ce point de vue-là, nous n'avons qu'une raison d'échapper à un milieu de vie particulier comme chez l'animal. Le monde, c'est d'abord une vision du monde particulière, sociologiquement, linguistiquement, historiquement particulière. Et donc, en prétendant que l'homme perçoit le monde en soi, le monde en son être en soi, est-ce qu'on n'est pas un peu naïf? Est-ce qu'on ne tombe pas dans une métaphysique à l'ancienne? Alors, on peut répondre ici à cela que le relativisme, au fond, ne se situe pas sur le même plan que l'attitude naturelle, que le relativisme, c'est tout simplement une attitude réflexive. Ça consiste à faire un pas de côté, et je regarde Étienne Bamnet en train de parler, et je me dis, bah, c'est un occidental, français, du début du XXIe siècle, nanana, nanana, et tout ça, je n'aperçois qu'une somme de relativité, parce que je me regarde parler et que j'aperçois quelqu'un qui est là, et qui pourrait être ailleurs. Donc de l'extérieur, réfléchissant mon expérience, en effet, j'aperçois beaucoup de relativité. Et il n'y a pas à nier ces relativités. Elles sont là, bien évidemment. Il n'y a pas à nier cela, il n'y a pas à nier tout ce que les sciences humaines nous apprennent sur cette relativité incompressible de nos vies. Simplement, ce que je dis, c'est que l'attitude naturelle n'est pas aussi réflexive que cela. L'attitude naturelle consiste tout simplement à croire que le monde existe avant même de réfléchir mon expérience, je crois, dogmatiquement, que le monde existe. Ensuite, je me dis, ah oui, mais attention, c'est peut-être juste mon milieu de vie, c'est peut-être mon monde occidental du XXIe siècle, etc., etc. Mais spontanément, quand je regarde par la fenêtre, je vois un immeuble et je n'ai aucun doute sur le fait que c'est l'immeuble vrai qui est là, l'immeuble réel, et que vous voyez le même. Il faut que je réfléchisse mon expérience pour me dire, ah oui, mais attention, d'abord tu le vois toi d'un certain point de vue, eux d'un autre point de vue, etc. Chacun a son histoire personnelle, sa complexion corporelle personnelle. Donc, je peux relativiser mon expérience, mais C'est un retour réflexif sur mon expérience qui me fait prendre ce point de vue sur elle. Comme dit Husserl, qui d'une certaine manière condense l'essentiel de ce problème, chacun de nous a son monde de la vie, donc là on est dans le relativisme, hein, son monde de la vie, son Umwelt, hein, son milieu de vie. Dès qu'on dit le monde de, ou mon monde, on est dans le milieu, dans l'Umwelt. Quand on dit en revanche le monde, on est dans le monde réel, on est dans le monde naturel. Donc, chacun de nous a son monde de la vie, mais visé comme monde pour tous. Donc oui, nous sommes toujours dans un monde relatif, bien sûr. Qui échapperait à son corps, à son milieu, à sa classe sociale, à son époque, etc. Bien sûr, simplement nous prétendons à de l'en-soi. Nous prétendons au monde comme tel. Voyez. Donc la question n'est pas celle que pose le relativisme. Bien sûr, notre expérience n'est jamais que relative, mais ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la prétention au réalisme. C'est la croyance réaliste. Et au fond, vous voyez là, une fois de plus, je conforte l'idée que c'est une question phénoménologique. La question n'est pas de savoir, par exemple, si le réel existe. La question n'est pas de savoir si le réel existe. La question est de savoir comment un vivant parmi les autres a pu produire une telle croyance. La croyance que le monde existe. La croyance que le monde est réel. Qu'il y a le réel. Et donc, le réalisme, hein, l'invention du réalisme, c'est tout simplement l'invention, l'apparition dans l'histoire de la vie d'une croyance réaliste, de l'attitude naturelle. Il ne s'agit pas, par exemple, de se dire que nous sommes, nous, miraculeusement, nous, êtres humains, en possession du réel. Je ne le sais pas. Je dis simplement que nous prétendons. Je ne dis pas, par exemple, que nous avons des modules cognitifs de calibration du donné, par exemple, comme on dit en philosophie cognitive, qui consiste à unifier le rapport à l'objet, ou de déplacement, comme on dit en displacement, en linguistique, c'est-à-dire être capable de se référer à un objet absent. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment croyons-nous, comment prétendons-nous à du réel. Et c'est cet acte subjectif qu'il s'agit d'interroger, c'est cette prestation subjective qu'il s'agit d'interroger. C'est une visée intentionnelle. Et quant à savoir si cette visée touche son but, peu importe, on peut mettre ça entre parenthèses, exactement comme Husserl met entre parenthèses l'existence du monde, ce n'est pas la question. On met ça entre parenthèses et on s'intéresse aux prestations subjectives du sujet. Alors, on touche à une troisième et dernière objection, qui est celle du réaliste. Le réaliste robuste, comme on dit. J'ai l'air d'ironiser, mais je suis moi-même un réaliste robuste, je crois dur comme fer que le monde existe, donc le réaliste robuste pourrait s'inquiéter. On pourrait dire, ah mais compliquer la chose, le réel il est là, et là vous êtes en train de nous embarquer dans une navigation phénoménologique, donc idéaliste, tour de passe-passe husserlien, c'est-à-dire que celui qu'on peut reprocher à Husserl, on voulait le réalisme, et puis en fait on se retrouve avec l'idéalisme, l'idéalisme transcendantal, avec une analyse de croyances subjectives. On est en train de décrire des conditions subjectives de possibilité. Et plus généralement, prendre son départ dans l'idéalisme animal, dans le subjectivisme animal, est-ce que ça n'est pas s'interdire d'en sortir en direction du réalisme? En réalité, ce que j'ai simplement proposé, c'est un déplacement, tout simplement, et je pense que c'est important, du contenu du réalisme. Les contenus du réalisme, c'est le réel, c'est-à-dire un dehors absolu de la pensée. Et la question, c'est de savoir, à propos du contenu du réalisme, la question, c'est de savoir si le réel a lieu ou non, hein, s'il y a quelque chose comme le réel ou pas. Ça, c'est la question qu'on peut se poser philosophiquement. Ce n'est pas la question qui m'intéresse. Je ne prétendrai pas prouver qu'il y a le réel, qu'il y a un dehors de la pensée. Je pense qu'en réalité, l'attitude naturelle a fait tout le travail et que nous, spontanément, nous pensons que le réel existe. Donc c'est une simple interrogation sur des actes subjectifs, des croyances subjectives. Ce n'est pas une interrogation philosophique sur le réel. L'approche classique consiste à dire, y a-t-il le réel ou non? Et s'il y a le réel, dit cette approche classique, alors nous y croyons. Mais vous voyez que, disant cela, on ferme la question. Il y a le réel, donc ben, forcément on y croit. Et donc pour rouvrir cette question, parce que je pense que c'est une question totalement inévidente, hein, comment croyons-nous que le réel existe? Pour la rouvrir, il faut mettre au centre, et pour mettre au centre la question de la croyance, de l'attitude naturelle, de la prestation subjective qui nous fait croire que le réel existe, il faut suspendre le réel une fois de plus. Il faut dire, voilà, c'est pas ça, c'est pas la question, c'est pas le contenu du réel, c'est pas le réel lui-même, c'est la croyance. Et donc suspendons cette question, mettons-la entre parenthèses, et on verra que toutes sortes de questions surgissent sur les dispositions subjectives, les croyances, comment c'est possible. C'est par exemple, c'est ce que dit William James dans un article de 1869, William James, le pragmatiste américain, c'est un article de 1869 qui est repris dans les Principles of Psychology, chapitre 21, il dit « Plutôt que de nous interroger sur la nature du réel, posons-nous la question suivante, dit-il, dans quelles circonstances pensons-nous que les choses sont réelles ?» Voilà, tout simplement. On se tourne vers le sujet, puis on dit à quel moment il croit dur comme fer que le réel existe. Quel moment le réel s'impose à lui dans sa nécessité. Et alors, si on se pose ce type de question, alors la question du réalisme prend une figure un peu différente. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur le contenu du réalisme, sur y a-t-il le réel ou pas, la question est souvent à tout ou rien, oui ou non. On est réaliste ou idéaliste, difficile d'être à mi-chemin. Quand on s'interroge sur la croyance réaliste, sur l'attitude réaliste, sur l'attitude d'un sujet qui croit que le monde existe, c'est un peu différent parce qu'il peut y avoir des degrés, on peut être plus ou moins réaliste, on peut adhérer plus ou moins à l'existence du monde, on peut y croire plus ou moins. La question est un peu différente ici. Pensez par exemple à, je le développe beaucoup dans l'ouvrage, ce qu'on appelle l'égocentrisme de l'enfant. Nous, humains, procédons d'une forme d'égocentrisme, exactement comme chez l'animal. L'enfant s'entoure de son monde et avec lequel il est en indivision et il n'est pas spontanément en prise avec ce qu'il appelle le monde. Il n'est pas spontanément réaliste. Une forme d'égocentrisme radical que Piaget a mis au centre de sa psychologie de l'enfant. Toute la question, c'est de savoir comment l'enfant progressivement va construire l'idée d'un réel sans lui, d'un réel objectivé qui peut être là sans lui. Et chez Piaget, ça prend l'allure d'une enquête très scientifique au sens où ce sont des objectivations qui ressemblent à celles de la science, qui vont produire cette réalisation du monde pour l'enfant. Cette révolution copernicienne, Piaget parle d'une révolution copernicienne en miniature. Mais vous voyez, il y a une progression vers le principe de réalité, il y a une progression vers le réalisme chez l'enfant. Donc quand on analyse les choses phénoménologiquement en termes de intentionnels, vous voyez, la question s'affine d'une certaine manière par rapport à la question philosophique classique, y a-t-il ou non le réel ici? On peut être plus ou moins réaliste. Et d'une certaine manière, c'est une question d'apprentissage souvent. Se laisser donner le réel, ce n'est pas évident d'une certaine manière. Il y a des gens qui refusent mal les cadeaux qu'on leur fait, ils ont du mal. Le réalisme, c'est pareil. Être capable d'accepter que le réel soit donné, qu'il soit là sans moi, ce n'est pas forcément une performance psychologique évidente. Donc qu'est-ce qui nous fait aller vers l'attitude naturelle? Je vais essayer de terminer en comprimant mon dernier pari. Le premier pari consistait à faire entrer l'origine animale en philosophie, mais vraiment, c'est-à-dire sous la forme d'un étonnement véritable. Et le deuxième pari consistait à phénoménologiser la chose, à la subjectiver pour produire ce type d'étonnement, montrer qu'il y a deux types d'intentionnalités très différentes au fond et qu'il y a une forme de passage l'une à l'autre qui est inévident. La question, c'est comment un vivant peut-il sortir de lui-même? Et là, j'examine dans mon ouvrage, il y a une partie entière qui est consacrée à ça, l'idée qu'il y a au fond deux façons très différentes de répondre à cette question. Il y a une piste, peut-être la piste la plus classique en philosophie, qui consiste à dire le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de moi pour être. Je perçois le monde comme pouvant exister sans moi. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la première piste qui agite la philosophie depuis son début, si je puis dire, c'est la piste de la mort. C'est ce que je disais quand je disais « je pourrais être mort, le réel resterait ce qu'il est ». Il y a des phrases de Derrida très belles qui vont dans ce sens. Je vous donne une phrase de Derrida dans « L'animal que donc je suis ». « Pour avoir rapport au soleil tel qu'il est, il faut que d'une certaine manière j'ai rapport au soleil tel qu'il est en mon absence. Et c'est en effet comme cela que se constitue l'objectivité à partir de la mort ». Avoir rapport à la chose, à supposer que cela soit possible, telle qu'elle est en elle-même, c'est l'appréhender telle qu'elle est, telle qu'elle serait, même si je n'étais pas là. Je peux mourir ou simplement sortir de la pièce, je sais que cela sera ce que c'est et restera ce que c'est. Le réel m'entretient de ma mort. Cette voie-là, elle est constante en quelque sorte en philosophie. Elle configure le réel comme nécessaire, ne pouvant pas ne pas être, donc s'enlevant sur fond de néant, ne pouvant pas ne pas être. Elle est constante en philosophie et d'une certaine manière, elle éclate avec Heidegger, qui l'écrit noir sur blanc, Pourquoi quelque chose plutôt que rien, hein, dans cette, c'est pour lui la question philosophique fondamentale, mais qui l'a fait éclater, en particulier à travers l'analyse de l'angoisse, hein, c'est à travers l'angoisse de la mort, hein, que je vois l'être en face, et qui l'a fait éclater par ailleurs à travers des analyses que je trouve très précieuses au début de Être et Temps, paragraphe 13, dans lequel il dit « Vivre, c'est agir », et puis parfois on tombe sur un problème, on tombe sur un dysfonctionnement. Et là, on lève la tête et l'être, enfin le réel, dans son étant subsistant et non plus disponible, fait encontre. Il s'impose à moi, comme dit Heidegger. Il sature mon regard. Donc j'agis, je suis là, je ne fais pas trop attention, mon regard glisse sur les choses, et tout d'un coup, tac, quelque chose ne va plus, et là c'est le réel. Là, c'est un effet de réel. Mais ce qui produit le réel, en quelque sorte, c'est la crise, le problème, le désajustement, le dysfonctionnement, la frustration. Vous voyez, on est dans cette voie ici, ce que j'appelle la voie de la mort. Et la crise de toutes les crises pour Heidegger, c'est la mort. Celle qui me rend philosophe, hein, c'est la mort. C'est la crise de toutes les crises, c'est le problème fondamental qui fait que là, je pose la question fondamentale, pourquoi de l'être plutôt que rien. On peut penser autrement, et je terminerai par là, l'invention du réalisme, non plus la voie de la mort, mais ce que j'appellerais la voie du nombre. La voie non plus du nécessaire, mais de l'universel. Et dire, avec Husserl par exemple, mais aussi avec Merleau-Ponty, que le réel est pour nous fondamentalement ce qui est pour tous. Le réel, c'est fondamentalement pour nous du commun. Quand je désigne cette bouteille, et si vraiment je la crois réelle parce qu'elle déborde mon regard, parce que je sais que vous la voyez tous en même temps que moi. Et il y a dans cette présomption qu'elle est réelle, quelque chose qui est de l'ordre du commun. Je la vois comme étant vue par vous tous. Je la vois comme l'objet d'une multiplicité de points de vue qui l'a fait éclater en quelque sorte, hein, qui l'a fait déborder mon regard. Si elle transcende mon regard, c'est parce qu'elle est vue par vous tous en même temps que par moi. Et c'est ça, hein, c'est cette chose bourrée de petites perceptions, comme dit Merleau-Ponty après Leibniz, c'est cette chose bourrée de petites perceptions qui existe. Mais elle est bourrée de petites perceptions parce que précisément elle est participée par tous les regards. Alors là, il y a une autre voie qui est celle non pas de la mort, non pas de la crise, de désajustement, mais la voie du nombre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans une vie humaine, et à commencer par les premiers comportements de l'enfant, qu'est-ce qui fait que son rapport aux choses va progressivement se communautiser, se communautiser, faire sa place à autrui dans son regard lui-même, c'est-à-dire... J'ai beaucoup examiné ça, alors moins dans l'invention du réalisme que dans l'ouvrage précédent, qui s'appelle « L'animal que je ne suis plus », à travers un phénomène qui s'appelle l'attention conjointe. L'enfant, entre 9 et 18 mois, c'est-à-dire un peu avant son entrée dans le langage, apprend à voir la chose comme étant vue par sa mère, ou son père, ou son frère. Il la voit comme étant vue par quelqu'un d'autre en même temps que lui. Il ne voit pas la chose... solitairement, il n'y a pas juste une interaction avec quelqu'un d'autre, c'est non, je vois et je sais que l'autre la voit aussi. Ce qu'on appelle un triangle référentiel. Il y a moi, il y a Francis et il y a la bouteille. Et parce que la bouteille n'est pas que à moi mais aussi à Francis, ben, d'une certaine manière elle m'échappe. Donc l'attention conjointe, qui est très étudiée en psychologie de l'enfant depuis une vingtaine d'années, pour moi est un marqueur humanisant fondamental parce que c'est précisément ce qui, en communautisant le regard, fait exister la chose. Vous voyez ? Alors évidemment, ce que prépare l'attention conjointe, c'est la communautisation telle qu'en elle-même, si je puis dire, qui s'accomplit dans le langage. Parce que les mots sont la chose de tous et instituent en quelque sorte, hein, c'est une institution empirique très particulière, le langage qui fait du commun, qui produit du commun. Hein. Je conclue en disant que la phénoménologie, parce que je l'ai montré avec Heidegger d'un côté et Husserl et Merleau-Ponty de l'autre, la phénoménologie au fond aura poussé les deux voies, la voie de la mort et la voie du nombre, aussi loin d'un côté que de l'autre, mais je pense que ce différent, cette dispute, la voie négative de la mort ou la voie du nombre, la voie du commun, concerne peut-être l'histoire tout entière de notre philosophie. Au fond, il y aurait deux façons de penser l'accueil qu'un vivant peut faire à ce qui est. Il y aurait d'un côté la voie négative ou métaphysique du platonisme, le platonisme comme ontologie de l'être délivré, du vivant délivré, hein, délivré de la vie, délivré de l'existence empirique, le platonisme comme ontologie d'un être, d'une vie purifiée, arrachée à elle-même en direction de l'en-soi, Mais il y aurait d'un autre côté la voie communicationnelle ou transcendantale du kantisme, non plus Platon mais Kant, la vie démultipliée, partagée, universalisée, en direction d'une communauté de vivants. D'un côté, ce qu'on peut appeler une injonction éternitaire, de l'autre, une injonction sociale. Alors, vous voyez que ce dilemme philosophique sur le réalisme, voie de la mort, voie du nombre, ne fait que traduire au fond un débat de type anthropologique. Et on peut arbitrer, si je puis dire, je pense qu'on peut arbitrer à la fois philosophiquement et anthropologiquement ou empiriquement ce débat. C'est-à-dire qu'on peut requérir une analyse conceptuelle, puis on peut requérir ce que, par exemple, la psychologie de l'enfant nous dit sur les premiers gestes de l'enfant. On peut aller voir du côté d'un célèbre débat entre Piaget, qui pense très métaphysiquement, je pense, ce dépassement du vivre et cette révolution copernicienne, donc je pense qu'il s'inscrit clairement du côté de la voie du désajustement, de la crise, du problème. Et Vallon, Henri Vallon, l'autre grand psychologue de l'enfant à l'époque de Piaget, qui est communiste et qui pense l'homme en tant que du côté du commun, et qui dit non, il ne suffit pas que l'enfant rencontre un problème pour que tout d'un coup il se mette à accommoder la chose et à devenir réaliste. Il faut des dispositifs, il faut des institutions socialisantes pour ça. Il faut du commun et des dispositifs qui machinent, qui fabriquent du commun. Donc là, il y a un vrai débat qui est un débat empirique. Et je pense que sur des questions aussi importantes, je pense que la philosophie éternelle en quelque sorte, l'analyse conceptuelle et l'analyse empirique ont tout à partager.
Alors, ce à quoi tu viens de procéder, je dirais que c'est une sorte d'introduction.
Ben oui.
Parce que ton livre est extrêmement riche. Et je le trouve particulièrement riche du côté des analyses empiriques, des processus. Alors, il me semble qu'il y a des éléments que tu n'as pas encore abordés. D'abord, il y a, dans la dernière voie que tu appelles celle du nombre, je ne sais pas si la formule est très heureuse, hein, finalement, parce que quand on pense nombre, on pense aux mathématiques. Oui, c'est vrai. Alors qu'en réalité, c'est plutôt une communauté, et il me semble que là, on a affaire à une surabondance. Et même, tu emploies à un moment donné, tu dis que ta réflexion a quelque chose de baroque. Et donc, il y a une surabondance.
Non, je dis que l'humain, dans cette voie-là, a quelque chose de baroque.
Bon, l'humain, dans cette
voie-là... Je ne suis pas baroque.
A une voie, bon, d'accord. Bon. Alors, et justement, tu mets l'accent notamment sur l'importance du langage et sur l'apprentissage du langage chez le petit enfant, notamment dans le rapport avec la mère. Et alors, tu abordes à un moment donné la linguistique de Chomsky. Mais finalement, tu l'abordes d'un point de vue un peu critique en mettant l'accent sur un aspect que tu qualifies d'inéiste. Alors que personnellement, j'ai l'impression que chez Chomsky, on a affaire à une générativité, et à une générativité fondamentalement ouverte. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas par des mots, mais nous parlons par des phrases. Et notre compétence linguistique déborde énormément les performances, et donc il y a une capacité, par l'apprentissage de la langue et du langage, une capacité infinie de se mettre d'accord avec l'autre que l'on écoute et qui nous écoute, et à commencer par les parents. Et cela, tu le développes excellemment, si je puis dire, dans ton livre, dans des analyses très précises qui font référence à de nombreux auteurs, notamment américains et très contemporains, que personnellement je ne connaissais pas parce que mes références sont un peu plus anciennes. Mais donc, tout ça, cette surabondance-là, cette créativité surabondante, c'est elle que je trouve finalement extrêmement importante. Et c'est elle qui, en quelque sorte, fait décoller l'humanité par rapport à l'animalité. Alors, il y a un autre élément dont tu n'as pas parlé et qui me paraît important aussi, c'est l'importance, notamment dans l'apprentissage enfantin, de l'initiation à des règles. Et tu insistes là-dessus en disant que la référence aux règles chez l'enfant, notamment dans le jeu, alors on peut distinguer comme le fait Winnicott, tu ne prononces pas le nom de Winnicott, mais comme fait Winnicott entre game et playing.
Mead, George Mead.
Pardon ?
George Mead.
Oui, mais Winnicott aussi.
Oui, mais après Mead.
Bon, peut-être, d'accord, bon, admettons. Bon, j'ai mes ignorances. Mais donc, moi j'ai lu surtout Winnicott, et donc il développe ça. Et donc, l'importance chez l'enfant de l'initiation aux règles est quelque chose de fondamental. Et c'est l'origine, en quelque sorte, de la distinction qui va se faire très vite entre l'ordre du fait et l'ordre du droit. Et cet ordre du droit est très important aussi pour caractériser l'humanité par rapport à l'animalité. Alors peut-être déjà tu pourrais répondre à ces remarques.
Oui, oui. Écoute, alors sur les règles, en fait j'ai commenté les 30 premières pages du livre.
Mais... Oui, c'est ce que je dis, l'introduction.
Mais c'est vrai que j'ai une partie entière, il y a trois parties, il y a trois débats en quelque sorte. Et le débat central, c'est la mort ou le commun. C'est vrai que c'est plus joli que le nombre. Mais il y a deux autres disputatio, enfin il y a deux autres, et notamment, est-ce que c'est l'universel ou la règle ?
Voilà.
Hein, l'universel grec en quelque sorte, hein, nous parlons pour nous mettre d'accord, etc. Ce que j'ai plus ou moins mis en valeur ici avec la voie du commun, ou la voie de la règle, la voie wittgensteinienne, c'est-à-dire est-ce que c'est l'orthopédie sociale, le fait que c'est ces règles qu'on nous apprend dès le premier jour et dès le premier souffle en quelque sorte, on apprend tout. Et est-ce que ce n'est pas ça au fond qui configure de manière peut-être plus effective une forme de réalisme humain, c'est-à-dire le fait que nous sommes mis en règle en quelque sorte. Et donc ça, je le développe en effet beaucoup, et pas du tout là, enfin j'en ai absolument pas parlé parce que je ne peux pas tout dire, mais c'est, en effet c'est une voie alternative et je pense qu'il faut penser l'humain un peu de ces deux manières, c'est-à-dire à la fois... cette orthopédie sociale, ce corps qui ne fait pas ce qu'il veut et qui du coup est mis en quelque sorte en phase avec le monde commun à travers le commun des règles. Et puis il y a parler, voilà, il y a la prédication, voilà. Hein, le fait de dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un qui d'une autre manière nous achemine vers du commun. Mais en effet, oui, je pouvais pas ce soir tout dire. En revanche, concernant Chomsky, c'est vrai que je suis assez cavalier, mais tout simplement parce que je privilégie l'analyse en première personne, l'analyse intentionnelle, et non pas le langage à partir de ses bases neurales objectives ou cognitives objectives. C'est-à-dire que j'ai absolument rien contre Chomsky et la générativité du langage, et t'as tout à fait raison d'insister là-dessus. Hein. D'une certaine manière, parce qu'en effet, c'est un langage essentiellement prédicatif chez Chomsky, et donc j'ai absolument rien contre ça, simplement j'ai privilégié l'expérience. Qu'est-ce que ça fait de dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un ? Ben, ça produit une forme de petite révolution copernicienne, c'est-à-dire que dire quelque chose à quelqu'un, c'est mettre au centre la chose dont on parle, et c'est s'acheminer vers cette chose comme si elle était la chose en soi dont nous parlons. Donc j'insiste plutôt sur ce vécu-là, ce vécu de celui qui parle, sur le parler plutôt que sur, sur les bases cognitives du langage, comme il le fait.
D'accord. Alors il y a un autre élément que l'on pourrait aborder aussi, qui concerne cette fois la notion de sujet. Bon, tu parles du subjectivisme de l'animal, mais d'un autre côté, il y a aussi, d'un point de vue beaucoup plus positif, ce qu'on pourrait appeler les processus de subjectivisation chez les humains, ce dont parle Foucault, par exemple. Et là, je pense, par exemple, aux analyses que fait Mélanie Klein avec ce qu'elle appelle l'introjection du bon objet. Donc, je veux dire que le sujet humain aussi, l'enfant, va se former comme sujet, justement, en intégrant une certaine forme de sujet qui va l'aider à devenir quelqu'un en face de quelqu'un d'autre.
Alors attention, parce que le mot sujet, moi je l'emploie, je le renverse dans son usage philosophique classique, c'est-à-dire je considère qu'il n'y a pas une conquête du subjectif chez l'humain, tout au contraire, nous partons du subjectif. S'il y a un vrai sujet, c'est l'animal. Vivre, c'est vivre sa vie, c'est vivre en première personne. Et d'une certaine manière, la vie humaine consiste à, non pas à se désubjectiver, mais à se subjectiver autrement ou à se recentrer ailleurs qu'en soi-même. Et donc j'ai pas à considérer que l'homme conquiert sa subjectivité comme si subjectivité, c'était Descartes, comme si c'était voilà, une espèce de grande conquête pensante. Non, c'est la vie en nous, la subjectivité. En revanche, ce qui peut se construire, c'est un soi objectif, un soi pour les autres, hein, une forme de soi sociale. Et ça, c'est autre chose. Mais j'appellerais pas ça sujet.
D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais bien.
Mais tu as raison. Mais ça, j'en parle en effet sur une forme de intégrer le regard des autres sur soi, etc. Je vous remercie.